Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à toutes, salut à tous. Tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des warriors qui clashent le sexisme et crachent les machos.
Woohoo !
Je m'appelle Margaïde et pour ce réjouissant programme, je suis accompagnée de la reine des woke, Zina.
Hello.
Je dis ça parce qu'elle fait super bien la cuisine.
Merci pour le compliment au passage.
En février, c'est le mois de la Saint-Valentin et on avait envie de parler de séparation parce que oui, l'amour, c'est cool, tout ça, mais on sait bien que les histoires d'amour finissent mal
en général.
On a déjà publié une première partie que je t'invite à écouter si ce n'est déjà fait, mais en préparant cet épisode avec Zina, il nous semblait essentiel de parler des séparations violentes, car oui, quand on est une femme, ton mec, quand on le quitte, peut nous mener à la tombe. Faut le dire, chaque année, des dizaines de femmes meurent tuées par leur ex. Un tiers des femmes déclarent être victimes de violences dans l'année qui suit la séparation. Voilà, désolée de plomber dans l'ambiance, mais c'est la réalité. Alors, on a voulu donner la parole à celles qui partent parce que quelque chose cloche dans leur couple, parce qu'elles ont peur. Celles qui fuient pour sauver leur peau. Elles sont victimes de violences conjugales, mais elles sont avant tout des warriors. Et elles vont nous raconter comment elles sont sorties de la spirale infernale de la violence. Elles vont nous dire ce qui les a aidées. Et c'est très important parce que forcément, à un moment de ta vie, tu auras autour de toi une mère, une sœur, une collègue, une amie concernée par la violence dans ton couple, dans son couple. Et ce jour-là, il faudra que tu sois prête à l'écouter. Un petit avertissement quand même avant de commencer, on va parler de violence, tu l'as compris, d'emprise, de harcèlement. Alors si c'est un sujet sensible pour toi, que ce n'est pas le bon moment pour toi d'écouter des témoignages de femmes victimes de violence dans leur couple, tu peux arrêter tout de suite l'écoute et faire autre chose. On t'invite, quoi qu'il en soit, à l'écouter dans de bonnes conditions parce que certains témoignages sont délicats. Hein. Moi j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois en préparant cet épisode. Et Zina aussi.
Ouais.
Alors, n'hésite pas à te mettre bien à l'aise dans un endroit qui te réconforte. Mais comme d'habitude, nos warriors font preuve de force, de courage et elles sont méga inspirantes. Avant de laisser Zina présenter la première warrior, je voulais, oui je sais, désolée, cette intro est interminable, je voulais remercier toutes celles qui ont pris la peine de nous envoyer un vocal ou de nous écrire.
Merci
sur Insta, Yes Podcast. On a essayé de répondre à chacune, je m'excuse si on en a oublié certaines d'entre vous. À toutes, je redis ici merci pour votre confiance. Raconter les violences que l'on a subies, ce n'est pas rien. C'est un pas énorme pour nous toutes et nous tous. Alors bravo, on vous envoie plein de force. J'ai une pensée spéciale pour Patricia, 56 ans, qui nous a laissé un très 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 long vocal pour raconter 30 ans de relations qui se sont terminées en violence. Voilà, on est heureuse et fière de t'avoir parmi nos auditeurices. Et maintenant que tout cela est dit, Zina, Je te passe la parole.
Oui, merci Marga. C'était une intro qui était nécessaire parce qu'effectivement, les violences sont un sujet très large, relativement peu abordé finalement, parce qu'on se rendra compte pendant cet épisode que les violences, ça recouvre plein de choses. C'est assez protéiforme. On parle de violences conjugales lorsqu'elles sont perpétrées au sein d'une relation de couple. Et avec le témoignage de Raphaël, dans un premier temps, on va voir que le couple peut aussi être un espace de discrimination. En l'occurrence, ici, il s'agit de validisme.
Presque tous les jours, je lui demandais si c'était vraiment vrai, si elle était sûre d'elle. À chaque fois, elle me disait que oui, elle était absolument sûre d'elle. Et finalement, elle l'a cassée. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que régulièrement pendant cette relation, elle avait eu des réactions, des réflexions particulièrement validistes, l'oppression vers les personnes handicapées et peut-être que j'aurais encore les œillères si on n'avait pas cassé finalement. Un peu avant, nous étions allés à un marché de crêteries, juste comme ça pour passer du temps, et j'avais offert à cette dame un marque-page, tout simple en fait. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a mis en image sur son compte Facebook en marquant comme titre, comme légende, l'amour ne voit pas le handicap. La violence du truc, ça m'énerve.
Ouais.
Waouh.
La violence ne voit pas le handicap, mais en fait, justement, en disant ça, en fait...
Elle reproduit un comportement violent.
Exactement. Est-ce que toi, qui connais quand même bien la discrimination, est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est violent ?
Absolument. Ben, en fait, c'est... Déjà, comme elle l'explique parfaitement, le couple est un espace dans lequel peut se reproduire des discriminations. Et finalement, à elle commence son témoignage en parlant, en posant la question « Est-ce que t'es sûre ?» On se sent souvent déjà amoindri hein, quand on est discriminé au quotidien. Et finalement, voir nommer son handicap de cette façon-là à la troisième personne, c'est extrêmement violent. C'est un truc vraiment qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas utiliser l'identité des gens comme ça sans leur consentement. C'est déjà une violence en soi, c'est déjà une reproduction de discrimination, de fait validiste en l'occurrence.
Merci pour cette explication, mais c'est vrai que la discrimination au sein du couple, voilà, on parle de validisme, mais ça peut être de racisme, grossophobie. Tout. En fait, toutes les discriminations qui sont en dehors du couple peuvent se retrouver à l'intérieur de nos couples et peuvent être vécues de façon hyper violente. Donc, je suis vraiment, Raphaël, vraiment...
Force
à toi, et je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre ça. Comme tu le dis, hein, finalement, c'est peut-être bien que ce soit fini cette histoire et que justement, vous ne soyez plus...
enlever tes œillères, comme tu le disais.
Voilà, et ne plus être en couple avant que potentiellement ça dégénère, parce qu'on peut le rappeler aussi, les personnes en situation de handicap sont surexposées
aux
violences physiques dans le couple également. Allez, on va maintenant écouter l'histoire de Oanel. Ce qui l'a poussé à témoigner, c'est que ça serve à d'autres. Zina, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Alors, Oanel a 28 ans et a passé un an avec un ex possessif, jaloux. Et accroche-toi, parce que ça va paradoxalement souvent ensemble, infidèle.
Mmh.
Et oui, elle finit par trouver la force de rompre. Mais là, surprise, le mec qui semblait plutôt doux, crème, etc., passe en mode harceleur abusif sans limite. Il est quand même allé jusqu'à la suivre en voiture alors qu'elle partait en vacances à l'autre bout de la France, à l'appeler sans cesse, à la menacer, à aller voir ses potes pour les retourner contre elle. Bref, un régal. On va écouter son témoignage tout de suite.
Donc ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris malheureusement des menaces à la fin, de ma part cette fois-ci, et des gens qui m'entouraient pour qu'ils me laissent enfin tranquille. En tout, je dirais que ça a presque pris un an finalement. Entre le début de la relation, le milieu de la relation et la fin du harcèlement, j'ai posé une main courante chez les flics contre lui, ce qui a fini par le calmer. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est ce genre de témoignage que vous vouliez entendre, mais je sais que c'est quelque chose dont j'ai mis énormément de temps à me remettre. Je suis actuellement dans une relation qui est saine, communicante, douce, et je me retrouve avec des problèmes, comment dire, défensifs. C'est-à-dire que j'ai beau avoir envie de faire confiance et je fais confiance. J'ai cette sensation de trahison constante et de on ne sait jamais à qui on a affaire, qui plane constamment. J'ai beau vouloir aller mieux et me détacher de ça, c'est quelque chose qui quand même me ramène souvent en arrière. Donc voilà, toutes les femmes à qui ça arrive, sous cette forme ou une autre, courage, parce que petit à petit, pas à pas, en travaillant et en communiquant avec la personne à qui je suis actuellement, et en ayant fait ce travail aussi en psychothérapie pendant un an toute seule et avec ma psy, voilà, on s'en sort, ça s'arrête et on finit par pouvoir doucement passer à autre chose. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de tolérance envers soi-même. C'est dur de pas se flageller, de pas se demander comment on n'a pas pu le voir avant, comment c'est possible d'être resté presque un an sans capter ça. Sachant que j'avais déjà pu croiser des prédateurs avant lui, pas sous la même forme. Et pour le coup, on était vraiment sur un piège, c'est-à-dire qu'il ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Et du coup, je me suis dit que ça allait être différent. Et finalement, c'était vraiment le revers de la médaille. Mais voilà, j'ai cru à un moment donné perdre espoir, me dire que j'allais pas pouvoir à nouveau... on va dire reconstruire une relation de confiance avec quelqu'un, c'est en train de se faire. C'est doux, c'est compliqué, et des fois je régresse, mais c'est en cours. Donc ben voilà, on n'est pas toute seule, hein. Vous n'êtes pas toute seule, et si jamais un jour ça vous arrive, que ce soit ça ou sous une autre forme, parlez-en. N'en faites pas un tabou, mettez des mots dessus si vous le pouvez, ou écrivez-le, mais parlez-en autour de vous, allez chercher de l'aide. Tout le monde a besoin d'un psy. Je veux dire, finalement, les gens qui y vont pas, c'est ceux qui en ont le plus besoin en général. Arrêtez de se mentir. Parlez-en autour de vous, n'ayez pas honte de ce qui se passe. Et si les gens vous tournent le dos à ce moment-là, s'ils choisissent la facilité, parce que j'ai entendu beaucoup ça, oh, on veut pas se mettre dans vos histoires, oh, on veut pas s'impliquer, on veut pas prendre parti. Et moi, je ne comprenais pas comment c'était possible en 2022 de ne pas vouloir prendre parti dans ce genre de situation, sachant qu'on n'était pas juste sur une dispute de couple, mais on était bien sur une situation de harcèlement d'un homme envers une femme. Et je ne comprenais pas comment des gens qui étaient censés être réveillés puissent vouloir se dédouaner à ce point. Si vous entendez un jour un témoignage d'une femme qui vous parle de ça, ou d'un homme qui vous parle de ça, qui subit ça avec une femme ou un autre homme, peu importe, écoutez-les. Donner de l'importance à ce qu'ils ont à dire, laissez-les verbaliser et lâchez pas l'affaire. Surtout que vous soyez la personne qui est harcelée ou celle qui entend le harcèlement, on n'est jamais seul. Écoutez ou parlez, un des deux. Mais voilà, courage à toutes, je vous embrasse. Et puis, on est une putain d'armée hein, quand on s'y met. Donc merci les filles de Yes et continuez à faire ce que vous faites parce que ça donne du courage à tout le monde. Merci beaucoup.
Wow. Merci à toi, Oanel.
Merci infiniment.
Et pour tous ces conseils.
Précieux.
J'espère que toi, derrière ton casque à l'autre bout de la France, peut-être t'as pris des notes parce que vraiment, le fait d'écouter, de pas rester seul, de briser les tabous,
c'est important.
C'est hyper important.
Ouais. Mais en fait, alors il y a plusieurs trucs dans son témoignage que je trouve intéressant. Déjà, le coup de la publicité mensongère, parce qu'on n'a pas parlé de la différence entre la séduction et la relation. Et finalement, on se rend compte dans beaucoup de témoignages qui nous reviennent que il y a un visage différent tout d'un coup. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est encore très attaché à la nostalgie de la personne qui nous a séduites. Et finalement, ça, c'est un truc. C'est pour ça que c'est important de discuter avec des amis, de pouvoir le nommer, de pouvoir se rendre compte que c'est pas comme au début. Et puis après, l'autre truc que tu dis, mais là, tu prêches une convaincue parce que moi aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Mais c'est encore une fois la thérapie. C'est pas un gros mot. Tout le monde a besoin d'aide.
Exactement. et à un moment, Oanel, tu poses une question, comment j'ai pas pu le voir avant. Pourquoi il m'a fallu un an pour voir son visage. Faut savoir que c'est bien décrit hein, dans les relations de couple violentes ou d'emprise, ça vient pas d'un coup.
C'est insidieux.
C'est insidieux, donc il y a la phase de séduction où évidemment la personne montre son meilleur visage, et puis après il y a le quotidien où goutte par goutte, petite tâche par petite tâche, la toile de l'emprise va se tisser. Alors ça peut être des trucs qui paraissent insignifiants au départ, genre tes miettes de pain là sur la table, ça m'insupporte. Et puis après, ça va être des poils de ton chien. Et puis après, ça va être ah là là, toi tu ranges des trucs comme ça, moi c'est impossible, je veux que tu les ranges comme ci, comme ça. Et où tu sors, enfin, c'est à chaque fois, on monte
en gradation.
Donc quand on est dans une relation de couple comme ça, on s'en rend pas compte. En fait, parce que ça va progressivement. C'est comme l'histoire de... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille. Alors, je ne sais pas si c'est vrai scientifiquement, mais...
Dans l'eau bouillante, là.
Non, voilà, si on plonge une grenouille dans l'eau bouillante, évidemment, elle va sortir tout de suite. Mais si on met une grenouille dans une casserole d'eau fraîche qu'on met sur le feu, elle va se laisser cuire jusqu'à en mourir. Voilà, c'est une comparaison assez horrible, mais je trouve que voilà, ça décrit bien ce côté graduel.
Cumulé. Parce qu'en fait, voilà. Isolément... tous ces petits entre guillemets mille guillemets incidents peuvent paraître comme ça anodins, mais cumulés ça forme une violence.
Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on en arrive à un mec qui va aller fouiller dans le téléphone de sa copine et la copine qui trouve ça tout à fait normal, mais parce que il y a eu mille étapes avant, quoi, ouais. De contrôle de ce qu'elle fait, de comment elle s'habille, de comment elle s'occupe de sa maison, de ce qu'elle range, de comment elle range, de, enfin, c'est vraiment tous les aspects du quotidien qui sont comme ça contrôlés.
Impactés. Et il y a un autre truc aussi, un dernier truc que je trouve hyper intéressant, c'est que les gens parfois réagissent pas bien parce que l'impuissance, ça met personne à l'aise. Et parfois, il va y avoir des réactions hyper maladroites quand on va raconter des faits de violence conjugale. Le truc de « je veux pas me mêler de vos histoires de couple », effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est juste impossible en 2023 de dire « ça me regarde pas, neutralité », quand il s'agit de violence. On n'est plus dans des histoires de couple. Et ça, c'est important de le nommer. Mais les gens, parfois, ne comprennent pas, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de faire ce genre de contenu, pour comprendre la dimension de la violence.
Oui, tout à fait, et d'autant que j'entendais une interview ce matin, le Haut Commissariat à l'égalité a sorti c'est une étude sur 5 ans après MeToo, alors où on en est, et en fait il ressort que dans les discours des gens, la question du sexisme, des violences sexistes a été intégrée. Mais dans les actes, pas du tout, en fait. Les femmes sont... on en est loin. On est toujours, aujourd'hui, victimes d'autant de violences qu'il y a 5 ans. Donc,
ça fait froid dans le dos.
Ça fait vraiment froid dans le dos. Donc, il y a le discours. Oui, moi, je suis contre les violences faites aux femmes. Et il y a
la priorité du quinquennat, non, c'était pas un truc
exactement.
Comme ça.
Et il y a les actes concrets dans la vie quotidienne. Et en fait, ça prend énormément de temps et énormément de pédagogie à déconstruire, en fait. Donc, ouais, comme tu dis, on a encore du boulot pour quelques années, on dirait. Allez, on va maintenant écouter le témoignage de Marie, une warrior particulièrement inspirante, Zina.
Oui, alors Marie, son témoignage m'a vachement émue parce qu'elle reste bloquée longtemps dans une relation violente et toxique dans laquelle la terreur s'est installée. Elle raconte qu'elle a très très peur hein, et ça a été dur pour elle d'en partir et c'est grâce à...
Comment je suis sortie de cette relation? Déjà, j'en suis sortie grâce à mes amis, eux. J'avais très peu d'amis à cette époque, d'amis proches. J'avais très peu d'amis à qui je parlais de ma relation. Il y en avait une en particulier, mon amie Laura, que j'aime mais de tout mon cœur et à qui je suis pour toute ma vie redevable. Qui m'a toujours écoutée. Et je sais qu'en elle-même, elle savait que cette relation était toxique et qu'elle était violente et qu'elle me faisait du mal, mais elle ne m'a jamais brusquée. Elle voyait bien que j'étais extrêmement attachée à ma relation, que j'étais extrêmement attachée à lui, que je n'étais pas du tout prête à partir. Et elle m'a soutenue jusqu'au bout, en fait. Toujours en me disant, peut-être que ça, c'est pas normal. Mais jamais en me brusquant. Et je pense que si elle l'avait fait, j'aurais été trop perturbée. Et aussi, lui m'aurait éloignée d'elle. C'est ce qu'il faisait avec mes amis qui ne l'appréciaient pas. Elle, elle a toujours été gentille avec lui, tout en me conseillant de voilà, faire attention, etc. Et surtout, quand ça a été le moment de partir, elle a été là pour moi. Et c'est seulement ces derniers mois que je me suis admis à moi-même que cette relation... qu'en fait, j'avais été victime de violences conjugales. Je l'avais jamais mis de mots là, comme ça là-dessus. J'avais jamais réussi avant à faire cette lecture, à comprendre que c'était ça que j'avais vécu. Le travail de partir, enfin en l'occurrence, moi, ça a été le travail de le chasser. Et ça a été extrêmement dur. Mais finalement, c'est ce travail que je fais depuis 3 ans de compréhension, de reconstruction qui est le plus difficile. Et c'est là-dedans que c'est vraiment important de se faire accompagner. Me reconnaître comme victime, c'est hyper dur. D'autant plus que ça vient, dans mon cas, avec le fait de se reconnaître en même temps comme victime de viols que j'ai subis plus tôt, d'agressions sexuelles, enfin de violences intrafamiliales. Et du coup, tout ça en même temps, c'est beaucoup et c'est très dur. L'identité de victime, elle n'est pas facile à vivre dans sa tête. Enfin, dans ma tête, c'est très dur. Mais en même temps, reconnaître ça, c'est hyper important parce que ça permet de mettre la relation derrière soi une bonne fois pour toutes. Mon ex a essayé de me recontacter plein de fois alors même que j'habite plus dans le même pays que lui. Toujours pour réessayer de me manipuler, réessayer de me voler de l'argent, réessayer d'avoir du contrôle sur moi. Parce que c'est ça dont il a besoin, il a besoin de contrôle. Et maintenant que je sais qui il est, maintenant que j'ai vraiment enlevé son masque jusqu'au bout, et que j'ai compris qui il était et ce qu'il m'avait fait subir. Là, maintenant, je suis capable de résister.
Bravo, ouais, bravo Marie. Franchement, incroyable. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment super inspirant, quoi. Enfin, la force que tu as eue et que tu as encore pour traverser tout ça, pour le surmonter. Waouh. Et résister, comme tu dis.
La puissance de ce témoignage, quoi.
Ouais. Et moi, ce qui me touche beaucoup dans ce témoignage, c'est ce que tu dis sur tes amis, eux, et notamment sur Laura.
La sororité.
Voilà, sur Laura, qu'on salue aussi si elle nous écoute. Cette sororité. Et moi, ça m'a rappelé une citation que j'ai entendue dans un podcast que j'ai écouté, c'est d'être comme une ancre dans la tempête quand on est un proche ou une proche d'une personne victime de violence conjugale. Et je trouve cette image super belle, en fait. Je l'ai entendue dans un épisode des Couilles sur la table qui est sorti récemment, qui s'appelle « Violence conjugale, banalité du mal », où il y a deux chercheurs, chercheuses, Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent qui interviennent et qui emploient cette image. Et en fait, c'est super important parce que, comme elle explique bien, en fait, elle se sent pas victime de violence conjugale. En fait, au moment où ça se passe, c'est pas au moment où ça se passe, on dit « Ah, je suis victime de violence conjugale, je vais aller porter plainte ». Donc ça sert à rien, en fait, d'arriver les pieds en avant en disant « Oh, tu te fais frapper, c'est pas bien, cette relation est pas saine, viens, on va à la police ». Et la façon dont toi et Laura, vous avez réussi à faire face ensemble à ça, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, j'ai l'impression que c'est la bonne attitude à avoir.
Exactement.
et qu'en fait on doit garder en tête ce témoignage pour savoir comment agir en cas de violence, enfin qu'on est confronté, quelqu'un est confronté en tant que témoin aux violences conjugales, c'est-à-dire écouter, garder le contact et dire « ouais, je suis là, je suis ton ancre dans la tempête ».
Voilà, c'est beau, j'aime beaucoup cette expression. C'est vrai, c'est hyper important de rester entouré. Et déjà parce que les victimes de violences sont potentiellement en danger, donc c'est important de réussir à les écouter sans les juger. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais ça recoupe un peu avec le témoignage précédent, et même si vous l'avez écouté l'épisode précédent, où parfois on va avoir des conseils hyper empouvoirants, parce qu'on a envie de faire des trucs, on a envie d'agir, et on va être là, vas-y, fais une nouvelle coupe de cheveux, demain est un autre jour. Ben, en fait, non, déjà, laisse-moi digérer, laisse-moi ressentir ma douleur, laisse-moi détricoter l'emprise que je suis en train de subir, laisse-moi comprendre. Enfin, il y a besoin d'un espace. Et cet espace, c'est avec vos amis, avec vos proches que vous pouvez le créer. Ça, c'est vraiment hyper important. Et du coup, Moi, ça me touche pas mal parce que j'ai beaucoup de personnes, j'ai beaucoup aimé ce témoignage pour cette raison, parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon cabinet qui sont extrêmement seules. Hein. Les dynamiques d'isolement dans les violences conjugales sont malheureusement très fréquentes. L'emprise de l'agresseur est parfois tellement forte qu'on se retrouve facilement seul, les ponts sont coupés avec les autres amis. Et c'est hyper important pour la prise de conscience de la victime, mais aussi pour éviter tout danger, de trouver la force d'écouter. Et si c'est compliqué pour vous, d'essayer de rester dans les petits conseils de communication non violente. Donc moi, j'aime bien dire éviter le « tu qui tue », « tu devrais faire ça », « tu devrais partir », « tu devrais réagir de telle façon ou de telle façon ». Ce que Laura a fait, là, c'est génial. C'est genre « bon, elle a l'air attachée à cette relation, et il faut que je sois là. Faut que je sois, comme tu le dis très bien, l'ancre dans la tempête. C'est hyper chouette. Bravo ».
Et on a une autre warrior qui nous a envoyé un vocal que malheureusement on n'a pas le temps de diffuser, mais qui me rappelle en fait sur l'amitié, les potes. C'est Anna qui vivait un début d'emprise avec son mec, qui commençait à contrôler un peu ses allées et venues, à pas aimer qu'elle sorte ceci, cela. Et en fait, elle voyait pas le problème, elle disait « oh bon, il est un peu jaloux ». Et en fait, c'est en parlant avec ses potes qu'ils lui ont juste dit « non mais attends, c'est bizarre ». C'est pas normal. Et en fait, ça a été le déclic pour elle.
Pour la prise de conscience.
Pour la prise de conscience et pour partir avant que cette relation ne devienne réellement violente. Donc c'est vraiment hyper important.
Précieux.
Quand on est ami d'une personne où on se dit « oula, cette relation est bizarre », de bien peser ses mots et de, comme tu dis, de ne pas être dans l'injonction, quoi.
Ouais,
c'est,
exactement.
C'est tout à fait ça.
Bah, d'ailleurs, j'ai employé un mot tout à l'heure sur lequel tu as réagi, Marga.
Oui, exactement. En fait, tu as dit toxique. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot toxique parce que j'ai vraiment le sentiment que parfois on emploie une relation toxique, un mec toxique, mon ex toxique, pour pas dire violent en fait, pour un peu minimiser l'impact. Et parfois, alors je juge pas, hein, parce que je peux comprendre aussi que ça peut être une première étape vers la prise de conscience, mais que quand on tient un discours public, moi je me dis, j'ai un peu de mal avec ce mot. Parce qu'on on se cache un peu derrière son petit doigt, un peu, c'est un peu comme le pervers narcissique, là. c'est le fameux qu'on connaît. En fait, non, c'est juste un mec violent, en fait.
Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, et pourtant, je le trouve important, cet adjectif. Moi, je m'en sers beaucoup en thérapie, dans le sens où il qualifie la dynamique relationnelle. Vous pouvez avoir, déjà, prendre conscience que la dynamique relationnelle dans laquelle vous êtes, elle est toxique, dans le sens pathologique, dans le sens, elle est en train de m'infecter, en fait. Je suis dans un truc qui me fait du mal. C'est plus dans ce sens-là, mais bien entendu, l'idée n'est pas de minimiser la violence de l'agresseur, l'agresseureuse. L'idée, c'est surtout de se rendre compte qu'on est dans un truc pas très épanouissant, en fait.
Ok, non, mais j'avais jamais pensé à ce côté-là
mais c'est
de dynamique de la relation.
C'est intéressant pour moi de voir comment tu le réceptionnes, parce que du coup, je ferai attention maintenant quand je l'utilise.
Ok, on se comprend mieux, Zina, maintenant. Allez, avant de continuer avec d'autres témoignages, on va faire une petite pause. À tout de suite. Allez, de retour pour parler des warriors qui ont réussi à se sortir de la spirale de la violence dans leur couple. Et on vous propose maintenant un témoignage particulièrement émouvant, très très beau. En tout cas, moi j'ai pleuré la première fois que je l'ai écouté.
Ah ouais, je te comprends, parce que moi aussi j'avais la gorge serrée. Céline, on a changé le prénom, nous a écrit un texte absolument magnifique. Le pouvoir des mots, M-O-T-S, pour décrire les mots M-A-U-X. Franchement, c'est incroyable. Son texte parle de lui-même, je vous laisse l'écouter.
Salut tout le monde. Alors je voulais vous partager mon témoignage concernant la séparation avec le père de mon fils. Je ne pourrais pas vous raconter avec précision ce qui m'a permis de prendre la décision de partir, comme je ne pourrais pas vous raconter avec précision ce qui m'a fait rester pendant 7 ans. Tout comme un état fascisant, les relations de maltraitance ne s'installent pas d'un seul coup. Sinon, le corps social, notre corps, se révolterait. Et j'insiste sur la comparaison politique, parce que dans ce type de relation, ce n'est pas de l'amour qui est en jeu, mais du pouvoir. Aussi bien dans la volonté de contrôle total du maltraitant que dans le « je ne peux pas » de la victime. « Je ne peux pas partir et je ne peux pas parler. » Parce que si je pars, le château que j'ai construit s'effondrera. Parce que si je parle, ce ne sera qu'un vulgaire château de sable fait de larmes. 7 ans durant lesquels j'étais trop court le short, trop grosse, pas assez sexy, pas assez active, pas assez admirative, pas assez compréhensive, à toujours dire non, trop intello, trop bête, trop hypocrite, trop honnête avec les gens, je ne faisais pas assez d'efforts, ma cuisine était trop grasse, je rajoutais du sucre dans mon chocolat, mes cheveux n'étaient pas bien coupés, je ne prenais pas soin de moi, je m'habillais mal et j'étais si susceptible. Je ne parlerai que des mots. Mais autant de mots qui assénaient tous les jours pendant 7 ans détruisent morceau par morceau toute volonté, toute estime et toute joie. Sauf qu'un jour, j'ai entendu mon fils parler avec sa meilleure amie. Elle lui disait « Ce sont les enfants qui pleurent. » Et mon fils a répondu « Et les mamans aussi. » Voilà, c'était devenu ça très concrètement ma réalité, une maman qui pleure. Je ne suis pas partie tout de suite, il m'a fallu 1 an de plus. Cette phrase n'a pas été l'élément déclencheur direct, mais elle s'est tatouée sur mon âme, parce que ce jour-là je me suis répondu « Mais non, non, ce n'est pas moi ça, ça n'a jamais été moi, je ne suis pas une maman qui pleure. » Alors j'ai tout fait pour redevenir une femme qui rit. Et les cartes de mon château étaient bien plus solides que n'importe quel parpaing. J'ai viré le dragon, j'ai repeint les murs en jaune, j'ai trouvé un travail pour acheter pas mal de pâtes, du gruyère et du beurre, ce qui me hisse sur la plus haute place du podium des cuisinières d'enfants de maternelle. Mais je réussis à nous offrir avec mon petit garçon des petits voyages pour rendre visite à nos amis, courir dans des musées, sauter dans des piscines et voir quelques spectacles. Et puis un jour, j'ai fait patienter un nouvel homme. Car avant de le rencontrer, je voulais être belle dans mes yeux à moi, avant de vouloir l'être dans les yeux de quelqu'un d'autre. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, et ça a été vraiment très difficile, même douloureux. J'avais la confiance en moi d'aller pas sur une terre sur une aire d'autoroute, et ça a fait remonter plusieurs traumas. J'ai pris le temps qu'il me fallait, et je me suis lancée. Je pouvais aller l'aimer, car je m'aimais de nouveau. Mais ça n'a pas marché. Et je suis toujours belle. Voilà, c'est fini. Malheureusement, le dragon ne peut pas disparaître totalement, car il voit de temps à autre notre fils. Mais c'est fini. C'est fini. Il y a la photo d'une phrase peinte sur un mur qui me remplit de bonheur à chaque fois que je la lis, parce qu'elle est si vraie. Et j'aimerais te la dire à toi, toi qui es encore enfermé avec ton dragon et qui a peur. Pars-toi. Pars-toi, tu auras une vie grandiose.
Waouh. Wow. Ouais, j'ai encore les larmes qui remontent rien de l'écouter.
Les frissons, quoi.
Ouais, cette dernière phrase, là, barre-toi, barre-toi, ouais.
C'est l'image du dragon.
Ouais. Mais non, mais ton texte, vraiment, est...
Il est puissant, il est fort,
bravo. Et magnifique, magnifique, Céline. Les cartes de mon château sont plus solides que n'importe quel parpaing, mais waouh, enfin, c'est... Bravo, enfin, déjà de pouvoir écrire
ça. Quel talent, quelle force.
Exactement, de pouvoir nous décrire tout ça de cette façon si belle et si imagée. Enfin, voilà, merci. Merci de nous offrir ça. C'est très, très émouvant. Et j'aime beaucoup aussi le fait que tu rappelles, en fait, que les relations violentes, ce sont les enjeux. C'est pas juste la violence, c'est le pouvoir, en fait. C'est prendre le pouvoir sur
Exactement.
Quelqu'un d'autre. Et c'est important, c'est très très important de le rappeler, que c'est pas juste des hommes malades comme ça dans un coin, des monstres un peu comme on les appelle, mais c'est en fait une structure quasiment sociale, en fait, de domination des hommes sur les femmes.
Il y a une construction sociale derrière ce type de dynamique.
Exactement.
Absolument, et c'est important de s'en rendre compte, parce que quand on s'aperçoit de l'aspect systémique de ce qu'on vit, bah déjà on se sent beaucoup moins coupable, on a le cœur qui est allégé d'une charge énorme, hein, parce qu'on nous met beaucoup sur les épaules, on fait ce qu'on appelle du victim blaming, c'est-à-dire qu'on va blâmer les victimes en premier lieu, et ça c'est hyper important pour nous de régulièrement parler de ça, de faire de la pédagogie sur ces questions-là, parce que être victime, c'est pas une identité, c'est un statut à un moment donné. Vous vivez quelque chose qui n'est pas de votre fait, mais qui est du fait, comme tu le dis très bien, Marga, d'une structuration sociale, d'une construction sociale du genre, et on n'est pas obligé de rester enfermé seul chez soi avec un dragon qui crache du feu. J'aime beaucoup cette image, elle m'a énormément touchée. Il y a quelque chose aussi qui m'a touchée, c'est la phrase de ton enfant, hein, la maman qui pleure. Ça m'a bouleversée, cette phrase de la maman qui pleure. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Marga.
Ah bah si, complètement. Là, c'est vraiment le moment où on se dit oui.
Là, on les yeux bien, bien mouillés toutes les deux. C'est pas évident d'enregistrer en même temps parce que ce texte, il est venu nous mettre un sacré coup, quoi.
Exactement.
Merci pour ça.
Et la puissance, en fait, des mots. Enfin, ça me fait penser à un livre que j'ai envie de vous recommander parce que moi, je trouve que c'est important, voilà. Là, on est à mi-chemin un peu entre la fiction et le témoignage et ça nous permet aussi de bien comprendre ces mécaniques d'emprise et de violence. Donc j'avais envie de vous recommander un livre qui s'appelle La deuxième femme, qui est un roman de Louise May qui raconte comme ça une histoire d'emprise et de violence. Et moi je trouve ça intéressant en fait aussi de mettre ces récits-là dans de la fiction. Et aussi, une autre recommandation que je voulais vous proposer, je parlais tout à l'heure des hommes violents qui ne sont pas des monstres. En fait, il y a un épisode de Mansplaining, un podcast de Slate Audio, justement là-dessus, sur les hommes violents, qui s'appelle « Nos pères, nos frères, nos amis ». Les hommes violents ne sont pas des monstres, avec donc un chercheur qui s'est intéressé au groupe de paroles d'hommes violents, et c'est très important. En fait, il rappelle que voilà, justement, ces hommes qui frappent leurs femmes, qui les contrôlent,
c'est pas des cas isolés.
Voilà, c'est pas des cas isolés, et de dire c'est des monstres ou ah là non, mais c'est vraiment des gros pervers, ça dépolitise et ça fait croire que ça repose sur des problèmes personnels ou pathologiques.
Une dynamique individuelle.
Voilà, alors qu'en fait, non, c'est un problème systémique.
Absolument.
Merci beaucoup Céline. Et avant de passer à la suite, je voulais encore partager quelques témoignages de warriors qui ont souhaité rester anonymes et qui donc nous ont écrit sur Insta. Alors un témoignage qui m'a beaucoup marqué parce que ça parle de quelqu'un de très très jeune. J'ai vécu pendant près de 6 ans, de mes 13 à mes 20 ans, une relation d'emprise avec un garçon de mon âge. Je savais bien que quelque chose n'allait pas, mais j'ai pris conscience des violences psychologiques et sexuelles plus d'un an après la séparation.
Waouh.
Donc voilà, on rappelle que il y a pas d'âge pour les violences dans le couple, ça commence très tôt et ça finit très tard.
Malheureusement.
Voilà.
Ou ça finit parfois trop tard.
Voilà, personne n'est à l'abri. Il y a quelqu'un aussi qui nous a raconté quelque chose qui l'avait beaucoup aidé. Ça avait été d'annoncer à son entourage, sa famille, ses proches, qu'elle quittait la personne avec qui elle était pour que ce soit officiel et ne pas revenir sur sa décision. J'imagine que c'est quelque chose en thérapie que peut-être tu emploies aussi un peu, le fait de verbaliser les choses, de les officialiser, ça peut aider.
Alors verbaliser, c'est important. Maintenant, attention à ne pas faire tout par rapport à l'entourage. Malheureusement, parfois, on n'a pas le réflexe de se mettre en priorité. On pense d'abord à ce que penseraient les autres. Et c'est ce qui fait, malheureusement, que beaucoup de personnes victimes de violences n'osent pas sortir de leur relation. Qu'est-ce que diraient nos proches? Qu'est-ce que diraient nos parents? Qu'est-ce que diraient nos amis? Et c'est important de ne pas non plus donner trop, trop d'importance à l'entourage. Votre entourage proche, s'il vous aime, il s'adaptera, quelle que soit votre décision.
On a aussi une warrior qui nous envoyait un long message pour nous expliquer la relation dans laquelle elle était et comment, après sa séparation, en fait, elle était complètement incapable de travailler pendant un an. Elle a mis du temps à se reconstruire.
Wow.
Voilà, maintenant, ça va mieux, mais elle avait un petit message pour toutes les personnes qui passent par là en ce moment. J'ai repris ma vie en main, mais cela a pris très longtemps. Courage à toutes celles et ceux qui passent par là. Écoutez votre voix intérieure, celle qui vous dit de fuir.
C'est très beau de dire ça, c'est tellement important la solidarité. C'est aussi une des raisons pour laquelle on fait cet épisode.
Tout à fait. Alors après tous ces témoignages, on avait envie de prendre un peu de recul et de donner la parole à une spécialiste. Donc Zina, tu as interviewé pour nous Louisa Donna.
Oui, alors Louisa Donna, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent, on vous a fait écouter son dernier tube sorti le 1er février qui s'appelle « Humide ». C'est une artiste, chanteuse, compositrice, militante féministe et psychologue spécialisée dans la violence conjugale. Bref, une vraie badass. C'était passionnant pour moi de discuter avec elle. On a parlé de pas mal de choses et elle m'a partagé des cas récurrents dans les couples de parents hétéros où le papa est violent. Alors, on précise qu'on parle de couples hétéros car ce sont des modèles qui sont hyper valorisés et que c'est pas sans conséquence. Mais malheureusement, évidemment, ces dynamiques peuvent exister dans d'autres relations, peuvent exister dans des relations queer. On le précise, mais là, l'exemple qu'elle va donner dans son intervention, c'est surtout sur les couples hétéros où la séparation étant consommée L'homme violent, l'agresseur, n'a plus d'emprise sur son ex-femme et instrumentalise les enfants. Ouais, c'est terrible, mais cruellement banal, en fait. Souvent, on a une image, selon elle, biaisée de ce qu'il faudrait faire pour préserver les enfants de la violence, et elle va nous expliquer tout de suite.
Si tu te construis avec une figure d'attachement qui est maltraitante, tu vas avoir tendance à garder... Cette figure-là comme une figure normée, en fait, et que tu vas pouvoir re-rencontrer dans ta vie. Donc, tu vas pouvoir estimer que c'est normal de te faire frapper dans tes relations futures ou te faire maltraiter psychologiquement, etc. Et donc, c'est vrai que les mères, en pensant protéger leurs enfants, parce qu'elles veulent absolument garder aussi cette réalité, que je trouve complètement folle, en fait, si tu y penses deux secondes, c'est vraiment une réalité construite dans un monde cis-hétéro-patriarcal, quoi. Sinon, ça pourrait pas tenir de dire, en fait, à leurs enfants, elles vont garder une image, elles vont conserver cette image de leur père, elles vont avoir tendance à pas vouloir, entre guillemets, mal parler du père. Alors qu'en fait, c'est pas mal parler du père que de dire des faits objectifs, tu vois. De dire « Papa, il a frappé maman » ou « Papa, il a été méchant avec maman » et donc du coup, il y a une loi qui l'a puni, par exemple. C'est un enfant, il peut comprendre ça à n'importe quel âge. En général, un enfant, il sait ce que c'est que la punition. Il comprend qu'il y a des limites, ce que son père n'a pas compris, a priori. C'est hyper important de bien expliquer de façon objective à son enfant qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Alors après, c'est aussi important de partager ses émotions. Hein. Enfin, moi, je leur dis, vous parlez soit dans les faits, soit vous parlez de vous. Enfin, c'est-à-dire, moi, je me sens triste parce que ça peut être ça. Hein. Ça peut être dire, je suis très triste que ton papa, il soit pas en capacité d'être le papa que j'aurais voulu que t'aies. Hein. Enfin, ça c'est clairement ce qui pose problème dans ces relations-là, puisqu'en fait, les femmes continuent d'espérer finalement, et c'est comme ça que l'emprise et qu'elle reste longtemps, enfin que l'emprise reste et qu'elle reste longtemps dans des relations, c'est qu'elles continuent d'espérer que finalement il y aura un changement à un moment donné. Et donc du coup, continuer de maintenir cette image qui est fausse, c'est hyper dangereux pour l'enfant qui n'est pas au courant de la situation de danger dans laquelle il se trouve, en fait. Et moi, j'ai constaté quand j'ai commencé à être psy il y a 7 ans que les femmes ne faisaient pas du tout ça aussi, ne parlaient pas du tout, enfin voilà, conservaient complètement l'image idéale d'un père qui n'était pas du tout réel. Et en fait, ça a créé des choses terribles parce que les enfants, en fait, ils se retrouvent avec, ils ont en face d'eux, ils ont une maman qui va très mal, qui déprime, qui a vécu des violences, qui continue de vivre des violences à travers les enfants, et puis un papa qui va super bien, qui souvent a une nouvelle femme très rapidement après, qui se porte plutôt bien, etc., et qui leur dit des choses sur leur mère, tu vois, qui vont leur dire « mais ta mère, elle est complètement folle ». Alors c'est sûr qu'en plus, quand madame va pas bien à cause des violences, c'est facile hein, de dire « ta mère, de toute façon ». Puis ils voient une mère déprimée, ils voient une mère qui va pas bien, etc. Et puis ils ont pas de discours inverse pour dire « en fait, si je vais pas bien, c'est parce que j'ai vécu des choses pas normales, que toi aussi t'as vécu des choses pas normales, qu'on est dans une situation pas normale ». Donc c'est sûr qu'ils vont prendre directement ce qui fait sens, tu vois, ce qui vient amener du sens dans la relation. Pas dans la relation, mais ce qui vient amener du sens dans leur histoire. Donc ils vont adhérer plus facilement à l'histoire du père, quoi. Et ça fait que, souvent, ils deviennent aussi virulents envers leur mère, tu vois. Du coup, ça renforce les violences contre la mère, qui déprime d'autant plus. Donc l'enfant, il la voit d'autant plus déprimée, donc elle fait d'autant moins envie, cette maman. Et du coup, ça donne des situations terribles, quoi, où l'enfant, il comprend pas au milieu de quoi il est. Et puis, souvent, il commence aussi à développer un peu des comportements pervers, puisque finalement, il a vu que la perversité du père faisait en sorte qu'il s'en sorte mieux, le père. Donc ça lui donne plus envie, en fait, de s'identifier à cette figure-là, en fait, qui a l'air de plutôt mieux s'en tirer et puis qui est en train de critiquer la mère qui va mal, quoi.
Waouh.
Ouais, très, très, très intéressant.
Hyper intéressant.
Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, ce truc où en tant que mère, en tout cas, on a cette image de se dire, oh là là, faut pas qu'on croie que je manipule les enfants contre le père. Et où, du coup, ce qu'elle raconte, en fait, c'est complètement contre-productif, en fait. En pensant protéger les enfants...
On recrée un climat.
On crée une réalité. Enfin, voilà, une image de la réalité.
Le tableau complet, il est pas ouf, hein. Il est vraiment pas ouf. En fait, on le disait tout à l'heure à propos des réactions des amis, on va le répéter là à propos de la réaction par rapport au papa violent. La neutralité en cas de violence, non. stop, la neutralité, là, c'est une grosse carotte, il n'y a pas de neutralité, là, il y a une violence, il faut nommer, c'est important d'utiliser les mots, et c'est important de parler aux enfants, parce que de toute façon, les violences, ils les vivent, mais autant leur donner des éléments de compréhension de ce qui se passe et de ce que tout le monde vit. Donc, d'offrir une grille de lecture la plus complète possible, en essayant de partager le maximum d'infos, dans un vocabulaire qui leur est accessible selon leur âge, hein. Évidemment, elle donnait l'exemple de papa était méchant, plus tard, on peut dire papa était violent, puis plus tard, on peut peut-être utiliser complètement les vrais mots, hein. On fait comme on peut, mais en tout cas, on ne laisse pas de creux, parce que finalement, ce truc de « on touche pas au père », c'est notre digne héritage du patriarcat. Hein. C'est ce ça. Truc de...
La sacro-sainte image du père, c'est limite Dieu, quoi.
Non, mais horrible. On est tellement conditionné à ça que même quand on veut bien faire, c'est ce qu'on fait, en fait. Donc c'est ouf. Donc non. Si papa a fait du mal à maman, ça peut être nommé. Ça peut être nommé pour que l'enfant comprenne et n'en fasse pas sa normalité. Parce qu'elle parlait de cet enjeu aussi que je trouve très intéressant, c'est l'idée de casser ce cycle, de ne pas reproduire les violences, et que les enfants, une fois adultes, ne trouvent pas normal de vivre des dynamiques aussi violentes, en fait. Donc vraiment, nommez autant que possible, et n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dedans, parce que bah, voilà, nous, les thérapeutes, on a des outils pour ça de plus en plus, et heureusement.
Eh ben, merci Zina, et il me semble que si vous avez envie d'approfondir avec Louise Adona, tu prévois dans les prochains jours un live sur Insta.
Absolument.
Donc restez connectés sur nos réseaux, Yes Podcast, on vous
en dit plus, on a vous... hâte.
Voilà, carrément. Allez, pour finir cet épisode, après tant de violences viriles, on avait envie de se défouler un peu. C'est l'heure du tribunal misandre. On vous rappelle le principe, un mec fait un truc de merde et nous, on le punit. On a lancé un appel sur Insta et on vous a demandé les pires crasses que vos ex avaient pu vous faire. Alors Zina, quels sont les chefs d'accusation ?
Alors, roulement de tambour, il y en a des vraiment gratinés. Merci beaucoup de nous les avoir partagés parce que c'est pas évident d'avoir vécu ça. On a des vrais winners là-dedans. Le premier, dire à tout le monde. Alors, c'est une personne qui nous dit que son ex a dit à tout le monde que je lui ai filé une MST par vengeance.
Non, mais n'importe quelle quoi. Horreur. Alors, moi, j'ai envie de me venger. Du coup, je vais moi-même me choper une MST pour pouvoir le refiler. Non, mais what the fuck.
C'est même pas logique, en fait. Alors, moi, je propose comme sentence de créer un faux profil Tinder avec sa photo et de mettre en bio « Je suis une sombre raclure, fuyez-moi ».
Allez. Moi, j'avais une autre idée. On pourrait le transformer en préservatif usagé géant, oublié dans une poubelle jusqu'à la fin de sa vie, fin de l'histoire.
Ah, j'adore, je signe. Alors, chef d'accusation suivant, merci, ouais, je perds mes mots. Me larguer le 31 décembre alors que je suis enceinte de 4 mois.
Oh, wow. Mais quelle horreur. Alors moi, je dis direct, service d'intérêt général dans une crèche, contribution gratuite, évidemment, et éternelle.
Ouais, éternel, pour toute sa vie, je suis d'accord. Franchement, ce genre de retour, de témoignage, c'est quand on les entend, c'est difficile de croire en la... C'est vraiment difficile de croire en l'espèce humaine, en fait.
Ouais, tout à fait.
Je le dis un peu rudement, mais... Bref, prochain chef d'accusation, me outer auprès de ma filleule de 12 ans.
Donc, c'est-à-dire que son ex est allé voir la filleule donc de la warrior qui nous écrit pour lui dire « elle est lesbienne ».
Sans son consentement.
Ouais, ok. C'est interdit, en fait. Vous n'avez pas le droit...
On ne fait pas ça.
...d'outer une personne sans son consentement. Mais c'est impossible.
Pas du tout. Donc vraiment, on peut proposer par exemple de poster la définition du consentement sur tous ces réseaux sociaux, hein, qu'on prenne qui pourra.
Ouais, voilà. Allez, chef d'accusation suivant.
Alors, casser le rétro, voler de l'argent et taguer M les grosses bites sur la voiture. Waouh.
D'accord. Ah, la meuf, elle a... Ouais, d'accord. Ouais. Son ex était vraiment un gros connard quand même.
Un gros connard.
Alors, moi, je propose d'aller taguer sur la porte d'entrée de son ex... Vive le clito.
Yes.
Non, ou alors encore mieux, le condamner à aller au boulot avec un t-shirt clito géant. Et en plus, comme ça, il est obligé de faire de la pédagogie.
Et oui, car on le rappelle, les clitoris ne sont rentrés dans les manuels scolaires qu'en 2019.
Exactement.
Alors, chef d'accusation, prochain chef d'accusation, ghosting après 4 ans de vie commune.
Ah oui, d'accord, ok, genre le mec, pas de nouvelles, quoi.
4 ans, tu files le truc tout doux, une belle petite relation, puis tout d'un coup, la personne disparaît complètement des radars.
Ok,
c'est
alors...
C'est ouf, quand même.
C'est complètement dingue, d'accord, même pas un petit message, rien, d'accord. Rien. Alors moi, je lui mettrai en boucle, dans la tête, une voix qui chante « Disparu, tu as disparu ».
Pas mal,
sans moyen de faire pause, jamais, je pense que ça rend ouf.
Ah, je valide, c'est une bonne forme de torture. Alors moi, je propose de mettre son numéro de téléphone sur Internet, parce qu'il y a tellement de tordus qui vont le harceler que, bah voilà, bien fait, du ghosting au harcèlement, bam.
Allez. On en a oublié un. Il y a le mec qui fête les 1 an avec sa copine, 8 mois après la séparation.
Oh putain. Mais quelle horreur.
Le gars, il a même pas regardé le calendrier, en fait.
C'est ouf. Alors ça, vraiment, les infidèles, c'est les meilleurs. même pas d'organisation, là, avec le calendrier. Bah écoute, moi, je propose de faire un post sur les réseaux sociaux avec écrit, bah, 2 ans, déjà, pour essayer de semer le doute sur le fait que la relation n'est pas terminée.
Hey. Alors moi, sinon, je le transforme en Big Ben, tu sais, l'horloge dans La Belle et la Bête, avec la moustache ridicule, là. Sauf que bah, le sortilège, il se finit jamais, contrairement au dessin animé,
mais évidemment,
pour lui rappeler un petit peu, voilà, hein, la bienséance en termes... Non, mais ça, c'est horrible, en fait.
Ouais.
En fait, elle a appris comme ça sur les réseaux que son mec l'a trompée, en fait.
Bah, tu remets toute la relation en question.
Oh là là.
Ouais.
Quelle horreur. Et ben voilà.
Merci, merci.
Allez, c'est déjà la fin de cet épisode.
Oh
merci
non.
À Patricia, Wanel, Céline, Raphaël, Marie et toutes les Warriors qui ont participé à cet épisode en nous envoyant des vocaux, des MP sur Insta ou qui ont balancé leur ex au tribunal Misandre.
Merci, merci, merci.
On vous embrasse bien fort. Et à toi, on t'envoie plein de force qui vit la violence dans ton couple. Tu n'es pas seule, tu l'as entendu. Écoute ta voix intérieure, fais ce qui est le mieux pour toi, prends-toi en compte, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et nous, on est là avec toi. Yes, c'est un podcast de Warrior produit par les ateliers Pixel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, Podcast Addict. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux
@yespodcast.
Yes, avec
3 S.
Merci Zina. On se retrouve très vite dans les prochains mois. On a envie de parler de baise ou pas, de littérature ou de rapport au corps. Alors reste branché, comme disent les boomers. On te lâche pas, on est avec toi. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de kiffer et tu as le droit d'être aimé sans peur, sans coup de pression. Yes, yes.